Bonsoir à tous. Déjà 4000 témoignages en un mois sur la plateforme et au numéro d'écoute des victimes d'inceste. France Inter s'est rendue dans une unité précurseur en France où les enfants victimes sont accueillis et entendus. Une baisse de taxes qui coûterait très cher, un chèque carburant difficile à cibler ou plus simple, une aide aux 20% des ménages les plus modestes. Pendant que le gouvernement planche laborieusement sur un geste face au prix des carburants, on verra que les candidats à la présidentielle ont tous leur idée. L'essence qui se fait rare en Guyane, mais c'est à cause du blocage des dépôts de carburant par les antipasses sanitaires. Les stations-service pouvaient rouvrir aujourd'hui, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Dans l'actualité encore, le prix Sakharov remis à l'opposant russe Alexei Navalny. Message à Vladimir Poutine, reconnaît une députée européenne. Le procès de la sextape Karim Benzema brille par son absence. Et puis à la veille de l'ouverture de la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, portrait d'une artiste plasticienne tout juste récompensée, Lily Reynaud-Devar. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir on parle de maisons individuelles avec jardin qui font parler d'elles puisqu'on les a traitées de non-sens écologique, économique et social. La ministre est revenue sur ses propos, mais la question de notre urbanisation du futur, elle existe bien. Comment existe encore le rêve d'une maison? Est-ce qu'on doit changer de rêve ou est-ce qu'on doit changer de modèle urbain? C'est à vous de nous le dire au 01 45 24 7000.
France Inter. Pour libérer la parole, il faut avant tout l'écouter. Cela fait seulement un mois que la plateforme en ligne et le numéro d'écoute des victimes d'inceste sont ouverts et il y a déjà plus de 4000 témoignages. La commission chargée d'enquêter sur le sujet est à Nantes aujourd'hui en Loire-Atlantique pour une réunion publique et pour visiter ce site pilote, une unité du CHU entièrement dédiée à l'accueil d'enfants en danger où Béatrice Duguet a pu se rendre.
Des papillons posés sur des murs pastel, des meubles colorés, des chaises d'enfants, quelques jeux. La petite pièce ressemble à une salle d'attente. Seule la caméra et la vitre sans teint trahissent cette salle d'audition pour enfants en détresse.
On peut observer des enfants qui nous parlent en nous tournant le dos.
Alice Pluvinage, psychologue.
On voit des enfants parfois qui sont recroquevillés sur eux-mêmes, qui ne bougent quasiment pas. Il y a plein de petits signes cliniques qu'on arrive à identifier en amont, avant même d'avoir commencé à échanger avec les enfants.
Pour les apaiser, il y a quelques stratagèmes, comme faire des bulles de savon, par exemple. Cette unité ne dissocie pas, en tout cas, le judiciaire du médical, insiste Nathalie Vabre, pédiatre et coordinatrice de la structure.
À partir du moment où on est présumé victime, on est présumé ayant besoin de soins. Donc on doit être accueilli dans un lieu de soins. On ne peut pas être accueilli dans un commissariat ou une gendarmerie. Il faut que la démarche du dépistage jusqu'au traitement ne soit pas un surtraumatisme pour les enfants et les adolescents.
415 enfants de la zone de Nantes ont déjà été accueillis cette année dans ce lieu sûr, spécialement conçu pour les épargner.
L'objectif même de ce dispositif, c'est que ce soit nous, adultes professionnels, qui nous déplaçons pour l'enfant, c'est-à-dire éviter qu'il soit vu par un psychologue, par un médecin, entendu par les services de gendarmerie ou de police.
Pour éviter en fait que la petite victime ait à répéter l'indicible.
Ce que les gens décrivent après les attentats, par exemple, il faut vous dire que pour les enfants qui ont vécu des violences, c'est la même chose.
Plus de la moitié des enfants accueillis dans cette UAED sont victimes de violences sexuelles.
L'UAED, l'unité d'accueil des enfants en danger à Nantes, premier déplacement donc de la commission dont les travaux dureront 2 ans. Ils formuleront ensuite des recommandations. Je vous rappelle le numéro d'écoute, le 0805 802 804. Retarder sa dose de rappel, c'est s'exposer inutilement. Le porte-parole du gouvernement veut convaincre et accélérer la campagne de la troisième dose qu'il juge encore insuffisante, alors que l'hiver arrive et que cela pourrait faire repartir la circulation du virus, alors que des signes de reprise de l'épidémie, tout frémissant qu'il soit, remontent aussi ces derniers jours. Le gouvernement d'ailleurs n'envisage pas à ce stade d'aménager l'utilisation du pass sanitaire après le 15 novembre pour ces mêmes raisons. En attendant, les antipasses se font entendre. En Guyane, ils bloquent 2 dépôts de carburant depuis lundi. Pour éviter une ruée sur les pompes, la préfecture a ordonné la fermeture des stations-service jusqu'à aujourd'hui. Mais les rares stations à avoir tenté de relever le rideau dans la journée l'ont bien vite redescendu. Marie Monnier sur place.
Toutes les stations-service du territoire sont de nouveau fermées. Les cuves sont à sec, faute de pouvoir être réapprovisionnées. Si moins de la moitié d'entre elles avaient encore un peu d'essence disponible ce matin, la plupart avaient choisi de ne pas ouvrir par peur des débordements aux abords des pompes. Et pour cause, en milieu de journée, les rares stations restées ouvertes se sont vite retrouvées débordées.
Monsieur, je peux prendre jusqu'à combien ?
20 au maximum.
20 au maximum ? Ça ne va pas suffire.
Devant l'une d'entre elles, une file d'attente interminable et la tension palpable.
Ça va très très mal.
Un homme brandit son bidon d'essence, exaspéré.
Rien n'avance.
D'autres, comme Willy, sont très inquiets pour les jours à venir.
C'est pour aller au travail,
faut aller chercher les enfants et tout. C'est vraiment, c'est désolant quand même.
Pour l'heure, les deux dépôts pétroliers guyanais sont toujours bloqués par les manifestants anti-pass sanitaire.
Marie Monnier en Guyane. Et puis à Metz, la manifestante anti-pass qui avait brandi une pancarte antisémite début août a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis, peine 2 fois plus lourde que celle requise par le parquet. La gestion de la pandémie au Brésil, celle du président Bolsonaro, a été désastreuse. 600 000 personnes sont mortes du Covid, au point qu'une commission d'enquête parlementaire réclame l'inculpation du président pour avoir délibérément exposé sa population. Jair Bolsonaro bénéficie de suffisamment de soutien au Parlement pour lui éviter une procédure de destitution. C'est donc assez symbolique, mais les accusations n'en restent pas moins gravissimes et dévastatrices pour son image. Anne Vigna est à Rio.
La commission parlementaire sur le Covid au Brésil termine 6 mois de travaux par un rapport accablant. Cette commission a révélé au pays plusieurs graves scandales, dont des expériences médicales douteuses à base de chloroquine sans le consentement des patients. Elle a également mis en évidence qu'un cabinet parallèle conseillait le président. Sa principale stratégie consistait à atteindre une immunité collective en laissant le virus se propager librement au sein de la population, dit le rapport. Le président est inculpé de 10 crimes, une peine sévère selon le sénateur Humberto Costa.
Les crimes qui sont imputés à Bolsonaro représentent 50 ans de prison au minimum et 150 ans au maximum.
Les fils du président sont également inculpés pour avoir publié des fausses informations tout au long de la pandémie. Mais selon le sénateur Flavio Bolsonaro, fils aîné du président, Jair Bolsonaro va rire de ce rapport.
Je crois qu'il va recevoir ce rapport comme ça. Vous connaissez son fou rire. Il n'y a rien à faire d'autre que ça. C'est une plaisanterie de très mauvais goût.
La famille Bolsonaro risque pourtant gros avec ce rapport si Jair Bolsonaro n'est pas réélu dans un an. Le rapport sera transmis aux autorités judiciaires brésiliennes, mais aussi internationales. Rio de Janeiro, Anvilla France Inter.
Jair Bolsonaro qui a réagi avec défiance à assez lourdes accusations, assurant qu'il n'était coupable d'absolument rien. Et aux États-Unis, tout l'inverse. La Maison-Blanche se dit prête à lancer la campagne de vaccination des 5-11 ans avec Pfizer dès le mois prochain.
Faire simple et efficace, voilà ce que cherche le gouvernement pour son geste sur les prix des carburants.
Et ça n'a pas l'air simple. On attend une mesure depuis plusieurs jours. Le gouvernement la promet dès que possible, mais entre-temps, les Français ont déjà fait et refait le plein. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Chacun a son idée pourtant parmi les candidats à la présidentielle.
Alors d'abord il y a celles qui défendent les baisses de taxes, Anne Hidalgo et Marine Le Pen, qui plaident pour passer la TVA de 20% à 5,5. Pour un plein de 40 litres, c'est 8 euros d'économie, assure la candidate du RN. Inconvénient, ça coûte très cher. Pour avoir une idée, une baisse de 5 centimes par litre ferait perdre jusqu'à 2,5 milliards d'euros à l'État. Le communiste Fabien Roussel propose lui aussi de jouer sur la fiscalité, mais lui parle d'une taxe flottante que l'on pourrait baisser uniquement lors des épisodes de flambée des prix. Il y a ceux qui préfèrent le chèque carburant, l'écologiste Yannick Jadot qui estime qu'il faudrait aider les plus vulnérables plutôt que de baisser les taxes pour tout le monde, et Xavier Bertrand qui a déjà lancé depuis 2016 chez lui dans sa région des Hauts-de-France ce chèque carburant. Toujours à droite, Valérie Pécresse qui propose de relever le forfait kilométrique pris en charge par l'employeur, et enfin il y a Jean-Luc Mélenchon, l'insoumis, qui penche lui pour un blocage des prix pour revenir aux tarifs d'avant-crise. Voyez, baisse des taxes, chèque carburant, bouclier tarifaire, on tourne en fait autour des solutions qu'étudie déjà le gouvernement. Le problème, et on le reconnaît au sein de l'exécutif, c'est que toutes ont leurs inconvénients.
Voilà, et on connaîtra donc la piste retenue, la mesure retenue par le gouvernement dans les tout prochains jours. Quant au prix du gaz, il bénéficie du bouclier tarifaire voté cette semaine à l'Assemblée. Et il devient du coup moins intéressant de se tourner en ce moment vers des fournisseurs alternatifs. Les offres sont 2 fois moins nombreuses que cet été, observe d'ailleurs le médiateur de l'énergie. La Chine, elle, n'exclut pas d'intervenir pour faire baisser le prix du charbon, dont la flambée contribue à de multiples pénuries d'électricité dans le pays et pénalise la reprise économique. Tout cela n'est évidemment pas très bon pour le climat. Quelle solution alors que la COP26 s'ouvre début novembre à Glasgow? C'est justement le thème d'une journée spéciale demain sur France Inter. Qui a verdi son énergie? C'est ce qu'on verra ici demain dans Un jour dans le monde. Hein, Fabienne, Grande-Bretagne, Norvège, Inde. Vladimir Poutine en Russie affirme de son côté que le dossier climatique est une priorité et pourtant il l'annonce aujourd'hui. Il n'ira pas à Glasgow. C'est son son premier opposant à Vladimir Poutine qui vient d'être distingué, Alexei Navalny, incarcéré pour fraude dans une affaire largement considérée comme relevant de la répression politique. Il vient de se voir décerner le prix Sakharov par le Parlement européen qui salue son combat pour la démocratie contre la corruption dans son pays. La députée européenne Sylvie Guillaume au téléphone de Christian Chesneau.
Une façon à la fois de célébrer ce qu'est le prix Sakharov pour nous, c'est-à-dire prix sur la liberté de l'esprit. Et donc c'est une manière de mettre en lumière quelqu'un qui se bat dans un contexte compliqué. C'est un acteur du changement. Je dirais aussi mettre cette lumière qui permet qu'on l'attaque un peu moins et qu'il continue d'être vu dans le contexte international. Ça avait été très très flagrant pour un certain nombre de précédents lauréats du prix Sakharov, notamment je pense à Denis Mukwege qui avait vraiment besoin d'être aidé. Et c'est aussi avouons-le très clairement, un message à Vladimir Poutine, tout à fait.
Sylvie Guillaume au téléphone de Christian Chesneau pour le Fonds de lutte contre la corruption, l'organisation fondée par Alexei Navalny, interdite en Russie depuis l'été. Ce prix récompense tous les Russes luttant pour la vérité.
Il y aura quatre débats entre les Républicains et LR à l'Élysée.
On les attend.
Entre les candidats LR, pardon.
Sur LCI, BFM, CNews et France 2 avec France Inter à partir du mois de novembre. Voilà donc la campagne organisée jusqu'au congrès du début du mois de décembre qui désignera celui qui représentera cette partie de la droite à la présidentielle. Les candidats peuvent donc attaquer les questions de fond. Le débat, bonsoir Hans Wetzmann.
Bonsoir.
Ça a commencé dès ce matin sur le nombre de fonctionnaires.
Oui Hélène, le match des idées est bel et bien lancé à droite et c'est sur les coupes dans la fonction publique que le débat s'enflamme. Souvenez-vous, 2017, François Fillon est accusé de brutalité sociale en voulant supprimer 500 000 fonctionnaires. 5 ans plus tard, Valérie Pécresse met les pieds dans le plat et donne son chiffre, c'était hier, 150 000 suppressions. Une manière de pousser ses rivaux à se positionner, pas assez pour Éric Ciotti qui le dit depuis quelques semaines, lui veut 250 000 suppressions. Pas si simple, répond ce matin Xavier Bertrand, c'était sur Sud Radio.
Je pense que l'on doit réduire le nombre de fonctionnaires à l'occasion des départs en retraite et des fins de contrat, mais moi je veux être capable de faire du sur-mesure. À l'hôpital par exemple, je toucherai pas aux cheveux d'un seul soignant, je pense qu'il en faut davantage.
Et pas forcément la bonne manière de poser le problème pour Michel Barnier sur RTL.
Moi, je ne dis pas cela. Je ne dis pas cela parce que je ne pense pas qu'on puisse rendre les fonctionnaires responsables quand l'État ne fonctionne pas.
Bingo de la droite s'est moqué sur Twitter la ministre de la fonction publique. Il n'empêche, les candidats de droite au Congrès sont ravis enfin de parler de fond après des semaines à se battre sur le calendrier. La méthode, la droite retrouve un peu d'oxygène. Hélène, immigration, prix du carburant, on l'a entendu. Les propositions pleuvent et on sait désormais que les prétendants à l'investiture auront 4 débats télé pour les confronter. Épisode 1, ce sera le 8 novembre.
Merci beaucoup Anne Souhaitemont. J'ai toujours répondu aux convocations. Là, c'est la réaction de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, alors que le tribunal a ordonné son audition au procès des sondages de l'Élysée. Et puis en bref, encore Éric Zemmour qui s'amuse à cibler des journalistes avec une arme de démonstration au salon Millepol. Il parle d'une blague, pas de message politique, pas de menace. Alors que la ministre Marlène Schiappa sur Twitter y a vu un moment horrifiant pour la liberté de la presse. C'est donc au moment où Karim Benzema est redevenu une star de l'équipe de France de foot que s'est ouvert aujourd'hui le procès de l'affaire dite de la sextape. Il est jugé pour complicité de tentative de chantage autour d'une vidéo intime de Mathieu Valbuena avec 4 autres prévenus. Mathilde Lemaire, vous avez suivi la première journée d'audience, audience où Karim Benzema, justement, a brillé par son absence.
Mon client jouait hier avec Kiev, il prépare un match avec le Barça, ses rendez-vous l'empêchent d'être présent, motive Maître V. Dommage que Karim soit absent, commente à la suspension Mathieu Valbuena. Le tribunal entend les autres prévenus qui, comme la star du Real, le plus souvent nient toute idée de chantage dans ce dossier. Il parle plutôt de proposition d'aide pour empêcher la vidéo sexuelle de sortir, pour rendre service à Monsieur Valbuena, dit l'un d'eux. Bien sûr, vous êtes un altruiste, vous êtes Mère Teresa, ironise le président. Un autre peu élégant, lâche. Si je voulais le faire chanter, j'avais 1000 autres occasions. J'ai fait des soirées chez Valbuena. C'était un bésodrome. Valbuena, à la barre, raconte lui sa peur aux premiers appels anonymes. On était avant l'euro. Je craignais que cette vidéo complique mon avenir chez les Bleus. Puis il dit sa déception. Quant à Claire Fontaine, son coéquipier Benzema est venu le trouver. Je suis au courant pour ta sextape. C'est chaud, Matt. C'est des voyous. Un ami proche peut t'aider, lui aurait lancé le madrilène. Jamais j'aurais imaginé que lui puisse participer à tout ça, commente-t-il. Pour l'avocat de Benzema, il n'y a aucun élément matériel, juste une différence de ressenti de cette conversation à Clairefontaine. Le président le coupe. Malheureusement, maître, on ne pourra pas questionner votre client sur son ressenti. Le tribunal écoute maintenant les écoutes téléphoniques du dossier, notamment celles qui ne sont pas à l'avantage de Karim Benzema. Comme les autres prévenus, il encourt 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende.
Mathilde Lemaire avec Éric Audra. Le procès doit durer 6 jours. Une enquête ouverte après ce geste désespéré à Marseille. Un homme a tué sa femme atteinte de la maladie de Charcot en phase terminale avant de retourner l'arme contre lui dans une chambre de l'hôpital Nord. Une cellule psychologique a été mise en place pour les employés et les patients. Olivier Martoc est à Marseille.
Il est 2h45 quand deux coups de feu déchirent la nuit de l'hôpital Nord. Le personnel de garde se précipite dans une des chambres du service de chirurgie thoracique. Une patiente de 69 ans qui venait de sortir de réanimation à la suite d'une opération lourde et délicate gît dans son lit une balle dans la tête. Son mari, âgé de 71 ans, est affalé à ses côtés. Il a retourné l'arme contre lui. Le suicide ne fait aucun doute. Il a laissé une lettre pour expliquer son geste. La décision aurait été prise à deux. Sa femme était atteinte de la maladie de Charcot. Elle était en phase terminale. L'atrophie musculaire avait atteint ses poumons. Des conditions de vie de plus en plus effroyables et surtout sans espoir d'amélioration. L'homme avait été autorisé à passer la nuit aux côtés de sa femme. Il n'avait bien évidemment pas été fouillé. Les enquêteurs cherchent à savoir comment il a pu se procurer un pistolet automatique. Une cellule de soutien psychologique a reçu toute la journée des personnels de l'hôpital, très éprouvés. Ce drame pose une nouvelle fois la question du suicide assisté et de l'euthanasie. Marseille. Olivier Martoc, France Inter.
Le compte n'y est pas dans la lutte contre les déserts médicaux. On en est à proposer à des professionnels de santé de rester jusqu'à 72 ans en cumulant emploi-retraite. C'est bien qu'il y a un échec dans l'accès aux soins, déplore un rapport sénatorial rendu public aujourd'hui et qui appelle à mieux associer les élus locaux et les collectivités. C'est le moment fort de la saison de l'art contemporain qui s'ouvre demain à Paris, la FIAC. Et c'est l'occasion, ce soir, de découvrir une artiste qui vient juste d'être récompensée du prestigieux prix Marcel Duchamp. Elle s'appelle Lily Reynaud-Devar, artiste plasticienne, nourrie de l'histoire des cultures militantes. Et c'est Isabelle Pasquier qui nous l'a fait découvrir.
Le prix Marcel Duchamp, c'est un prix extrêmement convoité par les jeunes artistes qui ont déjà une notoriété, mais qui ont besoin d'un accélérateur de reconnaissance. Les collectionneurs, les musées, les fondations le suivent de très près. La plupart des anciens lauréats se sont fait un nom. On citera Thomas Hirschhorn, Laurent Grasso, Kader Attia. Le prix 2021 récompense Lily Reynaud-Devar. Cette artiste de 36 ans présente une installation vidéo immersive et troublante. Le spectateur se retrouve au milieu de 4 grands écrans sur lesquels se rejouent de manière répétée les derniers instants de la vie de Pasolini, rupture des amours et malaise.
Je vais y aller là.
Mais non, reste, ça vaut le coup.
On y voit différentes actrices et acteurs qui sont en fait pas des professionnels et ils interprètent donc chacun à leur manière cette figure très importante de la pensée contemporaine. J'ai aussi souhaité remettre en scène ce moment de la mort de Pasolini et là en effet c'est le moment du danger, c'est-à-dire que l'amant de Pasolini veut partir et Pasolini lui demande de rester. Il y a quelque chose de l'ordre de la résistance à un événement dont on connaît, c'est historique, donc on sait que Pasolini a été assassiné.
Le prix Marcel Duchamp, un coup de projecteur sur la scène artistique française à l'étranger, où elle a un peu de mal à exister.
Et l'on peut voir hein, les œuvres et les installations des 4 nommés du prix Marcel Duchamp au Centre Pompidou jusqu'au 3 janvier prochain.
Merci beaucoup Hélène Filly, à demain.